Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Loridon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Jean-Frédéric Saint. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin de l'Allemagne. Le week-end dernier, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, a enregistré une très forte progression lors des élections en Saxe et dans le Brandebourg, de Länder d'ex-RDA. En effet, le parti populiste d'extrême droite y a rassemblé respectivement 27,5% des voix et 22,5% contre 9,7 et 12,2 en 2014. Alors comment comprendre ce succès fulgurant d'une formation politique pourtant très jeune, créée en 2013? Que révèle-t-il de la crise sociale, économique, politique que traverse l'Allemagne? Quelles pourront être les conséquences? Le vent populiste venu de l'Est pourrait-il précipiter une Angela Merkel qui apparaît de plus en plus fragile et dont on peine à voir émerger les successeurs potentiels? Pour évoquer ces questions, Michel Venachter, est-ce que je prononce correctement? Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue, maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy-Pontoise et à Sciences Po. Nicolas Hubet, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur d'université à l'université de Lorraine et également membre du CIRA, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Allemagne. Bienvenue à tous les deux. On parlera tout à l'heure de l'Allemagne. Avant d'évoquer ce dossier, place à notre partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Afghanistan. C'est Razal Golshiri. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste indépendante, mais vous travaillez pour Le Monde. On vous reçoit pour une série de papiers, de reportages publiés sur l'Afghanistan depuis la mi-août. Il y a également, d'ailleurs, je l'indique, des photos d'Andrew Quilty. Vous avez passé quasiment un mois sur place, d'abord dans la capitale Kaboul et puis ensuite dans la région de Nangarhar. On est à l'est du pays, après, côté de la frontière pakistanaise, on en parlera. D'abord, évidemment, Kaboul. Kaboul qui a été le théâtre de deux attentats cette semaine. Hier d'abord, avec un bilan qui s'élève à 10 morts, dont 2 militaires de l'OTAN. Lundi soir ensuite, un attentat qui tuait 16 personnes, auxquelles s'ajoutent les 119 blessés. Attentat revendiqué par les talibans, qui est survenu à un moment particulier, puisque c'était au moment où était diffusée à la télévision une interview de l'émissaire américain, dans laquelle il évoquait la possibilité d'un accord avec les talibans, qui aurait été trouvé, en tout cas il y a des discussions, et qui aurait été trouvé à l'issue d'une rencontre entre donc les Américains et les talibans à Doha, au Qatar. Alors au-delà évidemment de ces récents événements aussi, j'indique pour nos auditeurs, il y a quand même un climat d'insécurité extrêmement grave, avec des attentats qui se sont beaucoup multipliés ces derniers mois. On pense d'ailleurs notamment à cet attentat terrible dans un mariage dans la communauté Hazara qui a fait 80 victimes. Vous en avez parlé dans l'un de vos papiers. L'attentat d'abord de lundi dernier, Razal Golshiri, qui survient à ce moment très particulier, au moment où l'ambassadeur américain, l'émissaire américain, évoque cette possibilité d'un accord de paix avec les talibans. Jusqu'où est-ce qu'il faut lier les deux événements? Comment est-ce qu'on interprète cette concomitance d'événements?
Donc je vais juste rappeler que l'attentat a eu lieu lundi soir, 5 minutes avant la fin de l'interview de l'émissaire américain pour parler entre Washington et les talibans. Et c'était contre le camp Green Village qui héberge les employés des institutions internationales. Et le lendemain, quand je parlais avec une source dans l'entourage du président Ashraf Ghani, lui, il me disait que les talibans, en continuant à mener des attaques terroristes dans tout le pays, essaye d'avoir la main haute, en fait, sur les pourparlers qui vont avoir lieu à la suite de la signature de l'accord avec les Américains. Ça sera des pourparlers inter-afghans entre les talibans et les représentants du gouvernement de Kaboul.
Mais est-ce qu'il faut conclure aussi que peut-être les talibans qui aujourd'hui sont dans cette délégation au Qatar, au fond, ne représentent pas ceux qui sont sur le terrain?
Non, parce que ça a été le dernier attentat, donc celui de lundi soir, a été revendiqué par le porte-parole des talibans. Donc non, on ne parle pas des différentes factions.
Est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui à un accord de paix?
En fait, en parlant avec des Afghans, il y en a beaucoup qui veulent y croire. Et donc, ils pensent que les attentats en ce moment, en fait, c'est pour retourner l'opinion publique contre Achraf Ghani et dans le but de repousser la présidentielle qui doit avoir lieu le 28 septembre. Donc, il y en a qui y croient encore. Mmh,
mmh. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble le texte là qui est sorti de cette rencontre entre les représentants, les délégués américains et les talibans? On a un peu une petite idée des contours de ce que pourrait être cet accord?
Alors, on parle du retrait d'une partie des forces américaines en Afghanistan. On parle de 5400 soldats qui doivent partir dans les 135 jours, qui doivent quitter le territoire afghan. Et en contrepartie, les talibans s'engagent à empêcher tout groupe terroriste d'utiliser le territoire afghan.
Mmh. Ça pourrait convenir à Donald Trump, cet accord-là?
Je pense qu'il a tout, c'est son intérêt de pouvoir partir de l'Afghanistan. Parce que même Mike Pompeo, son secrétaire d'État, avait fixé un deadline pour ses pourparlers pour le 1er septembre, même si ça n'a pas eu lieu. Mmh. Mais tout laisse penser que l'administration américaine veut à tout prix avoir un accord de paix avant la présidentielle. Du 28 septembre.
Donald Trump, il avait même évoqué la possibilité de retirer tous les soldats américains. On sait que c'est exactement ce que veulent les talibans.
Exactement.
Donc en réalité, la possibilité d'un accord est là, même si entre ce que dit Donald Trump et peut-être ce qu'il fait ensuite et ce que fait l'administration américaine, il y a peut-être un écart. Mais est-ce qu'il y a un terrain là à trouver? Puisque a priori, Donald Trump, il est d'accord pour partir.
Mais après, le Pentagone et le Sénat ne sont pas d'accord que toutes les forces américaines quittent l'Afghanistan.
Rassal Golfiri, visiblement, le gouvernement afghan, lui, est écarté de ces négociations. Il ne participe pas là au pourparlers au Qatar. Pourquoi?
Parce que pour les talibans, le gouvernement d'Ashraf Ghani est une marionnette des États-Unis et elle n'est pas digne d'être autour de la table des négociations.
Mais il faudra quand même qu'il valide, en tout cas qu'il entérine, impliqué. Qu'il soit d'accord avec cet accord. En tout cas, s'il n'était pas d'accord avec le texte qui sera trouvé, ça sera un problème.
Pour l'instant, le but, c'est d'avoir la signature de cet accord entre les Américains et les talibans. Ensuite, le texte va être vu par Ashraf Ghani et d'autres acteurs politiques en Afghanistan. Et ensuite, il y aura une conférence de paix à Oslo entre les représentants du gouvernement et les talibans. Mmh. Et qui va peut-être permettre un processus de paix. Parce que pour l'instant, on parle du retrait des forces américaines et on ne parle pas de la paix.
Ashraf Ghani, est-ce qu'il serait d'accord sur le texte, sur ce principe du retrait de 5400 hommes d'ici 3 mois?
Pour l'instant, il n'a pas manifesté désaccord avec le texte.
Vous le disiez, il y a des élections qui sont prévues pour le 28 septembre. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent avoir lieu?
Plus le temps passe et plus il y a des attentats en Afghanistan, il y a moins de chances que les élections aient lieu.
Mmh. Mais est-ce qu'on est en capacité de les organiser? Je veux dire, il y a aussi des considérations purement organisationnelles. Est-ce qu'on est en capacité d'acheminer des urnes dans les bureaux de vote? Est-ce qu'on est en capacité d'assurer la sécurité des personnes qui vont s'y déplacer?
Pas la sécurité,
l'organise.
Parce que ça a été très problématique pendant les élections parlementaires il y a quelques mois. Et même, je pense qu'il y a un homme politique proche d'Ashraf Ghani qui a été ciblé par un attentat en juin ou en juillet. Et il y a eu 20, le bilan a été assez lourd, 20 personnes. Donc la sécurité, pour l'assurer, c'est très problématique pour le gouvernement. Mais après, il y a une partie de la population qui veut la présidentielle, qui veut des élections parce qu'ils pensent que ça fait 18 ans qu'il y a une guerre en Afghanistan, des vies ont été perdues, mais il y a quand même une démocratie, même si elle est fragile et défectueuse, mais il y a des gens qui pensent qu'il faut préserver ce système et essayer de l'améliorer, surtout au sein de la société civile afghane.
Il y a encore des envies de démocratie.
Oui.
Malgré les échecs à répétition, malgré les...
Non, mais moi j'ai vu ça, par exemple... chez un homme que je cite dans mon premier reportage. Il est poète, il est militant de la société civile, mais finalement, il a été au premier rang de toutes les mobilisations de la société civile pour la défense des droits des femmes, pour la commémoration des victimes de la violence. Et lui, il a finalement décidé de se convertir, de devenir un homme politique et se mobiliser auprès d'un des candidats à la présidentielle. Et quand je parle avec des gens comme lui, Yacine Nega, et d'autres, je vois qu'il y a quand même une vraie volonté pour que le pays continue sur la voie de la démocratie, mais en payant un prix très fort.
Est-ce que les Américains veulent de cette présidentielle?
Pour l'instant, est-ce que finalement, c'est pas une priorité? Non, leur priorité est vraiment d'avoir la signature de l'accord avec les talibans. Et parce qu'ils pensent qu'en obtenant ça, la présidentielle sera repoussée et dans ce cas-là, ils pourraient inclure les talibans dans le jeu électoral.
Aujourd'hui, faisons l'hypothèse que les élections se tiennent, qu'elles ont bien lieu. Il y a, je crois, 16 candidats aujourd'hui. Les deux favoris, c'est Ashraf Ghani, le président, et le chef du gouvernement, Abdullah Abdullah. Quelles sont leurs chances à l'un et à l'autre? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un troisième homme sorte comme ça de ce scrutin? Est-ce qu'il y a un outsider qui peut comme ça l'emporter? Comment vous voyez les choses?
Quand je suis partie à l'est de l'Afghanistan, donc j'étais dans une province pachtoune, Ashraf Ghani est issu de cette minorité, et en parlant avec des gens qui sont pas des membres de la société civile, mais des militaires, plutôt des soldats. Ils veulent tous voter pour Ashraf Ghani. Et même à Kaboul, quand je parlais avec des gens, ils veulent un homme fort. Et pour eux, l'homme fort, c'est le président sortant.
Il y a aussi une figure là qui est en train de débouler dans le paysage politique afghan, alors qu'il n'est pas candidat, mais c'est Hamoud Massoud, qui est le fils du commandant Massoud, du Panjshir, assassiné deux jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Il vient de lancer un mouvement politique avec l'ambition à la fois de chasser les talibans, mais de rendre le pouvoir au peuple. C'est un démocrate, c'est comme ça qu'en tout cas il présente les choses. Qu'est-ce qu'il représente? De quel soutien populaire est-ce qu'il jouit cet homme? Est-ce qu'on peut lui imaginer un avenir politique?
Peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir. Mais il n'est pas le seul à faire figure d'outsider. Moi, j'ai rencontré une femme...
Il n'est pas candidat.
Non, il n'est pas candidat. Mais dans les prochaines années, on peut imaginer qu'il devienne. Quand j'étais, pendant mon reportage en Afghanistan, j'ai rencontré une femme qui, elle aussi, fait partie d'un parti politique. Et elle aussi, elle croit à une troisième voie, c'est-à-dire pas la présence américaine en Afghanistan, pas négocier avec les talibans. Et elle ne croit pas aussi, non plus au système, au Ashraf Ghani et au gouvernement actuel. Donc il y a des gens qui rêvent, on va dire, qui sont moins réalistes peut-être, mais qui rêvent et qui prennent aussi des risques démesurés. Et par exemple, la femme que j'ai rencontrée, elle s'appelle Silay Rafar. Elle a toujours été une activiste, une militante pour les droits des filles, leur éducation, même pendant les talibans. Et elle représente vraiment ça. Elle porte pas le foulard, donc elle est très courageuse. Et elle se base sur les mouvements de la société civile de ces dernières années. Elle pense que peut-être un jour, à travers d'un de ces mouvements, il y aura d'autres figures politiques qui vont ressortir, qui vont émerger, qui vont sortir de l'Afghanistan, de la corruption et de ce système défectueux.
Ouais, c'est d'ailleurs une des choses qu'on sent à travers tous vos reportages, c'est une certaine confiance, un certain optimisme quant à justement une forme de réveil de cette société civile qui a l'air assez dynamique.
Oui, ouais. C'est assez
malgré
étonnant.
Les difficultés.
C'est assez étonnant. Et en parlant avec ces gens, ces membres de la société civile, eux, ils me disent les Afghans, ils adorent la vie parce qu'ils sont tellement proches de la mort qu'ils sont très dans la vie. Peut-être plus que d'autres gens à travers du monde. Et je trouve ça assez étonnant et ça donne de l'espoir pour l'avenir de l'Afghanistan.
Rasal Golchiri, vous êtes rendu À Nangarhar, on est là dans l'est du pays, je le disais, pas très loin de la frontière pakistanaise. C'est une région où les populations s'organisent pour se défendre, alors à la fois contre les talibans, mais aussi contre les groupes affiliés à l'État islamique. Dans cette zone-là, on a des villages qui se sont rassemblés pour former une milice qui est baptisée Soulèvement Populaire. Vous nous dites qui on trouve dans ces milices, contre qui on se bat, qui sont ces gens?
Alors, donc cette milice que j'ai rencontrée à Nazian, à l'est du pays, à 5 kilomètres de la frontière pakistanaise, tous les membres de cette milice ont été sont des villageois, sont des habitants des villages dans cette province, et ils sont tous issus de la minorité Pashtun. Et eux, ils ont, ça a été, donc la milice a été formée en 2013, donc ils ont commencé par affronter les talibans et repousser les talibans, et ensuite l'État islamique a apparu en Afghanistan. Et
pourquoi 2013? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Parce que, donc, en parlant avec ces gens, avec les dignitaires de la région, ils me disaient que la sécurité s'était tellement dégradée qu'il y avait l'urgence d'agir. Et ils ne pouvaient pas s'appuyer sur le gouvernement de Kaboul. Donc, ils ont pris l'initiative de former cette milice.
Et aujourd'hui, ils sont soutenus précisément par le gouvernement de Kaboul.
Oui, ils sont payés par les services,
ils sont même payés.
Les services de sécurité.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type de milice se multiplie sur l'ensemble du territoire et qu'au fond, on ait un État afghan qui s'appuie sur ces milices locales pour organiser la sécurité de...
C'est un peu déjà le cas, parce qu'il y en a 60 à travers le pays, au moins 60 milices. Mais après, il y a un vrai risque que ces groupes deviennent forts de leur puissance militaire et de leurs ressources économiques, se convertissent en politique et menacent le gouvernement de Kaboul. Ce qui a été le cas il y a quelques mois aussi dans la province de Nangarhar, c'était le cas d'un chef de milice Pacha, dont le nom m'échappe, et il a été accusé par les habitants de la province d'abus de pouvoir, de vol et des violations des droits de l'homme, et il a été condamné à 6 ans de prison.
Et donc il y a un risque politique pour
un vrai risque politique.
Le pouvoir de Kaboul. Ça fait plusieurs années, Razal Kolshiri, qu'on parle de la montée en puissance de groupes plus ou moins affiliés à l'État islamique. Est-ce qu'on a une idée de ce qui représente aujourd'hui du poids, du nombre de combattants et de leur pouvoir de nuisance?
Alors, pour en Afghanistan, on parle de 2500 membres jusqu'à 4000 pour l'État islamique. C'est vrai que en termes de nombre, ils représentent pas un vrai risque, mais leurs combattants sont vraiment résilients et ils privilégient les cibles faciles, c'est-à-dire les mariages, les écoles, les salles de sport, les mosquées. Et donc, ça, en termes de bilan, les attentats qu'ils mènent sont vraiment catastrophiques.
Vous parlez de mariage, justement, vous avez fait un papier sur cet attentat, c'était le 17 août dernier, dans un mariage, justement. Je crois qu'il y a eu 80 morts de mémoire, c'est
oui,
ça
68.
Dans la communauté Hazara, c'était un groupe affilié à
l'État islamique, oui.
L'État islamique a revendiqué.
Oui. Ils ont revendiqué, oui.
Et pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent en particulier à la communauté Hazara?
Parce que
qu'ils sont chiites.
Exactement. Et les combattants de Daesh sont sunnites. Et donc il y a vraiment une différence entre les talibans et les djihadistes de l'État islamique. Les talibans restent quand même nationalistes, donc ils disent cibler juste des groupes étrangers, des organisations internationales, pas le peuple, même si dans la réalité c'est pas le cas. Mais en fait, l'État islamique cible notamment les chiites.
Quel lien entre les talibans et les groupes affiliés justement à l'État islamique? Parce que, ils ont en tout cas pour le moment un ennemi commun qui est le pouvoir de Kaboul. Donc on pourrait s'imaginer qu'ils s'unissent dans ce combat.
Depuis, donc, l'État islamique est présent en Afghanistan depuis 2015 et il faut se rappeler que les talibans ont combattu un peu partout en Afghanistan les combattants de Daesh parce que leur objectif n'est pas le même. Donc, les djihadistes de l'État islamique volent un État qui s'étend sur tous les territoires. Ils veulent exporter leur idéologie où ça sera possible. Mais, les talibans restent nationalistes, ils veulent un émirat islamique comme c'était le cas entre 1996 et 2001.
Merci beaucoup, Razal Golshiri, d'être passée dans notre studio. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, que vous travaillez pour Le Monde. On peut lire, relire vos reportages sur le site dumonde.fr. Il y en a d'autres à venir qui vont être publiés dans les prochains jours. Et puis, je rappelle que vous êtes partie aussi avec Andrew Quilty, qui est photographe, et on peut retrouver ses photos également sur le site. Merci infiniment d'être passée.
Merci.
Alors, on va quitter l'Afghanistan pour prendre la direction de l'Allemagne. Après les succès de l'AfD dans la Saxe et le Brandebourg, l'Allemagne, le vent populiste fera-t-il tomber Angela Merkel? C'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, le week-end dernier, les Allemands de Saxe et du Brandebourg étaient invités à se rendre aux urnes, un scrutin qui a été marqué par une très forte poussée de l'AfD.
Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire le meilleur score de l'histoire de l'AfD. Nous allons profiter de cette force au Parlement et continuer à bien travailler. C'est bien nous qui faisons bouger les choses ces dernières années.
Voilà, on entendait à l'instant Jörg Urban. Si l'AfD n'est pas en position encore de former un gouvernement régional, il n'en demeure pas moins que ce nouveau succès nous invite à nous interroger sur les racines de la montée de ce populisme d'extrême droite, sur l'avenir du pays aussi, comment la montée de l'AfD rebat le jeu des alliances au niveau régional, mais aussi fédéral. Ce résultat pourrait-il peser sur l'avenir de la grande coalition à Berlin? Merkel pourrait-elle être emportée par ce souffle populiste venu de l'Est? Nos invités, Michel Venachter, merci encore d'être avec nous. Nicolas Hubé, notre partenaire du Monde, Marc Semo. Marc, on va commencer avec vous. Ces élections, elles faisaient évidemment figure de test pour la CDU et le SPD. Elles se sont transformées en un nouveau rappel à l'ordre. Il y a évidemment cette perte de confiance envers les partis traditionnels qui se poursuit. Et si ces partis, justement, ne parviennent pas à y répondre, cette AfD, eh bien, elle pourrait parvenir peut-être à s'imposer. Qui sait en tout cas. Par ailleurs, on voit que les racines de cette percée de l'AfD, elles sont particulièrement profondes, qu'elles révèlent une situation de crise politique, économique, sociale, qu'on n'avait d'ailleurs peut-être pas imaginé. C'est vrai que ces dernières années, on disait l'Allemagne, c'est le pays fort politiquement, voilà, économiquement, socialement. On se rend compte qu'en réalité, l'Allemagne ne va peut-être pas aussi bien que ça. Et c'est aussi ce qui a été révélé là.
L'Allemagne ne va pas aussi bien que ça, mais c'est surtout l'Est qui ne va pas bien. Et d'une certaine façon, on voit avec ces élections régionales au Brandebourg et en Saxe que 30 ans après, le mur est encore là, voire qu'il est en train de se reconstruire d'une certaine façon, malgré les 2000 milliards d'euros qui ont été investis depuis la réunification de l'ex-RDA. Alors, l'AfD donc, est le vainqueur, même s'il n'arrive qu'en seconde position, il espère arriver en première. Son slogan, c'est « Nous sommes le peuple ». Ils reprennent le slogan de 89. Mais il ne faut pas oublier que cette force politique est née à l'Ouest, en 2013, avec des économistes anti-euro dans la banlieue de Francfort. Et encore aujourd'hui, l'essentiel des voix de l'AfD à l'échelle nationale sont à l'Ouest. Mais c'est à l'Est qu'elle s'affirme comme une force politique, avec plus de 20%, 25% des voix, qui risque de devenir de plus en plus incontournable. Alors, les raisons, elles sont évidentes à l'Est. L'AfD cristallise toutes les frustrations des électeurs de l'Est, comme auparavant la gauche de la gauche, avec Die Linke, qui était aussi un parti né à l'Ouest, mais qui cristallisait ce ras-le-bol, comme auparavant encore les partis issus de l'ex-parti communiste. Mais on voit là un phénomène de transfert de voix ouvrier, exactement le même qu'on avait en France avec le Front National. Alors, je vais finir là-dessus. Les frustrations, elles sont bien réelles. Le revenu annuel par tête dans l'ex-RDA, c'est 30 000, contre 40 000 à l'Ouest. Le taux de chômage est beaucoup plus fort. Et surtout, il n'y a pas d'homme politique, à part Angela Merkel, parmi les ministres actuels du gouvernement, dont les circonscriptions sont à l'Est. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on retrouve une Allemagne coupée en deux, avec une AfD qui est de plus en plus extrémiste, parce que celle de l'Est est beaucoup de ces leaders sont quasiment des néo-nazis.
Michel Venachter, on va commencer peut-être avec vous. Effectivement, ce que dit Marc, c'est juste le scrutin du week-end dernier. Il montre qu'en réalité, cette réunification, elle n'est peut-être pas totale et qu'il reste effectivement une frontière entre l'Est et l'Ouest. C'est une des choses qui est révélée par ces élections.
Absolument. Et c'est un bilan un peu triste 30 ans après, comme vous l'avez souligné, parce qu'il y a eu énormément d'efforts à tous égards qui ont été faits pour recoudre, si j'ose dire, les deux parties de l'Allemagne. Alors cela étant, le tableau est assez nuancé, ça dépend effectivement des domaines, mais vous avez effectivement dans les Länder issus de l'ex-RDA une partie de la population qui se sent traitée un peu comme des citoyens de seconde zone, malgré tous les efforts que vous avez évoqués. En réalité, le succès de l'AFD, il a des raisons tout à fait multiples. D'abord, il y a des raisons historiques, c'est-à-dire que les gens dans cette région-là, ils ont enchaîné deux dictatures, donc c'est des sociétés qui manquaient d'ouverture, de tolérance et de culture démocratique, et ça se ressent évidemment. On pourrait remonter encore beaucoup plus loin en remontant à la Prusse, parce que ça recouvre l'essentiel du territoire de la Prusse, avec aussi des caractéristiques nationales, conservatrices, autoritaires, mais là on part beaucoup plus loin. Les raisons sont également
C'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est plus profond que la division qu'on évoquait.
Oui, bien sûr.
C'est pas évident.
Ça remonte à plus loin. Tout comme l'Autriche n'a pas fait le même travail sur son passé nazi que l'Allemagne, et donc ce qui s'est passé n'est pas non plus totalement un hasard. Et en réalité, donc les raisons sont historiques, elles sont aussi politique, puisque une bonne partie, enfin les autres parties traditionnelles, on va dire, n'ont pas été à l'écoute des problèmes spécifiques de cette population est-allemande, qui a quand même énormément souffert. Le président allemand Joachim Gauck l'a rappelé il y a quelques jours. Il faut voir ce que ces gens ont traversé tout de même. C'est-à-dire qu'ils ont été totalement bousculés, les vies ont été brisées, ruptures. Enfin, 80% des gens ont perdu leur travail après 1990. Énormément d'efforts de remise en cause. Et quand tu perds ton emploi, tu perds aussi la place à la crèche pour les enfants, et ton loyer a été multiplié par 5. Les gens ont dû changer plusieurs fois de travail pour ceux qui arrivaient à en retrouver. Et là, tout à coup, 30 ans après, vous avez ces Allemands qui, de cette région-là, qui, en plus, se retrouvent essentiellement dans les campagnes, parce que c'est là que l'AFD fait ses scores les plus importants, là où il y a eu le plus de désertification, le plus de départs des jeunes, reste la génération qui a eu des forts traumatismes après 1990 et qui se sent aujourd'hui traité un peu comme des citoyens de second zone, parce que, étant plus désertifiés, ces zones-là voient disparaître ces infrastructures, les services médicaux et tout ce qui va avec, les services publics, et ils se disent, mais alors tout ça pour ça. Et donc, en fait, ils n'associent pas le concept de démocratie de la République fédérale à quelque chose de positif, comme l'essentiel des Allemands de l'Ouest ont pu le faire, en tout cas pendant plusieurs décennies. Et ça, c'est une bonne partie de l'explication du vote AFD aussi, en tout cas dans les zones les plus désertifiées, qui sont celles qui votent le plus AFD.
Alors, on va poursuivre ce premier tour de table, Nicolas Hubet, et vous allez réagir librement à ce scrutin, mais je vais rebondir pour avancer un tout petit peu sur ce que disait tout à l'heure Marc Semo, à savoir, vous introduisiez, Marc Semo, le parti de gauche Die Linke, et c'est vrai qu'on peut s'interroger finalement pourquoi ce parti-là ne parvient pas, au fond, à capitaliser sur cette colère, sur cette crise sociale et économique, d'autant qu'il s'effondre, si on regarde les scores de 2014, c'est vrai qu'il s'effondre aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que l'AFD qui parvient à capitaliser sur cette crise sociale, identitaire, économique, politique de l'Est?
Oui, alors il faut rappeler aussi autre chose, et Marc Semo l'a dit, le vote AFD est un vote allemand en général. Il faut aussi rappeler qu'en 2017, seuls 3 Länder et les plus petits ont eu un score inférieur à 10% pour l'AFD. Tous les autres ont dépassé la 10%, y compris dans les Länder riches du sud de l'Allemagne, la Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Hesse, et c'est démultiplié à l'Est. Et à l'Est, effectivement, ce n'est pas l'électorat le plus pauvre qui vote pour l'AFD. Lorsque on regarde la structure sociologique de l'électorat de l'Est, ce sont plutôt les classes moyennes qui ont peur du déclassement. C'est pas celles qui sont les plus déclassées, mais qui ont peur du déclassement parce qu'elles voient les infrastructures qui sont plus là, elles voient les emplois qui partent, elles voient effectivement les jeunes diplômés qui quittent l'Est pour aller trouver des emplois à l'Ouest, ils voient les grandes villes riches de l'Est, Dresde ou Leipzig, mais dans les petites villes, Görlitz, Chemnitz, Chemnitz. Si les manifestations de Pegida, de l'extrême droite très dure, ont lieu à Chemnitz, c'est aussi une ville qui est un peu une ville fantôme. C'est-à-dire que vous avez des bâtiments entièrement vides parce que la population a fui. Et c'est beaucoup plus ce sentiment de perte, de déclassement ou de peur du déclassement. Effectivement, à l'issue des urnes dimanche dernier, la première chaîne de télévision nationale, la RD, avait fait un sondage et un électeur sur deux, donc y compris des électorats de Die Linke, la CDU, SPD, ont le sentiment d'être des électeurs de seconde zone.
Et donc Die Linke n'a pas la bonne réponse pour cette classe en particulier. Voilà.
Non, parce que c'est pas nécessairement ce vieux vote de classe qui existe.
Justement, on trouvait une situation un peu semblable à celle de la France, où une des raisons pour lesquelles Die Linke n'arrive pas aujourd'hui à capitaliser le ras-le-bol de l'ex-RDA, c'est aussi parce que Die Linke, alors maintenant ça change un peu, a fait l'impasse sur la question de l'immigration et de l'islam. Parce que l'envolée à l'est de l'AFD, ça a été quand même de mettre en avant cette double thématique des dangers supposés de l'islam et de l'immigration, après notamment que Angela Merkel ait fait la grande ouverture en 2015 aux réfugiés avec le Wir schaffen das, nous y arriverons pour les intégrer, etc. Ça a été quand même à ce moment-là que l'AFD s'envole. Et sur ces questions-là, à l'Est.
Michel Wenechter, on a fait l'impasse sur l'immigration, sur la question migratoire, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui pour Die Linke ?
Alors, disons que Die Linke, effectivement, n'a pas thématisé cela du tout, comme l'AFD. L'AFD a instrumentalisé ce thème, jusqu'à plus soif, si j'ose dire, et c'est dans le contexte qu'on expliquait à l'instant, c'est-à-dire où les citoyens ne sont pas dans une situation de sécurité personnelle très forte, c'est dans tout ce contexte que le migrant apparaît comme le bouc émissaire, et aussi comme un concurrent, notamment pour les prestations sociales, etc. Et donc, l'AFD a su instrumentaliser ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où le vote AFD est le plus fort, c'est là où il y a le moins d'étrangers. C'est aussi vraiment un bouc émissaire, et l'AFD s'y entend parfaitement bien pour instrumentaliser ça.
Comme le Rassemblement National, d'ailleurs. Marc Sebaud.
Mais alors, d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que Die Linke a changé son discours, parce qu'ils ont introduit, sur une base sociale, la question de l'immigration, en disant c'est concurrence de main-d'œuvre et tout. Et donc, ils ont commencé un discours, non pas raciste, mais un discours, entre guillemets, quasiment marxiste, sur la question de la concurrence sur le salariat. Mais ils ont commencé à introduire ce discours de l'immigration. De fait, sinon, ils étaient totalement largués. Et c'est le même problème qu'à Mélenchon, pour faire simple, la France insoumise en France par rapport au Rassemblement national de la région du Nord.
Nicolas Hubert. Je crois qu'il faut faire attention à la comparaison un peu hâtive, Rassemblement national, AFD, Die Linke, Mélenchon. Mélenchon se réclame de Die Linke, mais l'AFD ne se réclame pas nécessairement au départ du RN ou du FN, notamment dans sa vision ouvriériste. Effectivement, l'AFD n'a pas ce discours ouvriériste, étatiste que peut avoir le Rassemblement National. Au contraire, on est plutôt dans le Front National des années 90, c'est-à-dire un Front National tenu par Maigret, néolibéral, et c'est, il faut le rappeler, on l'a rappelé, 2013, c'est la crise de l'euro, et c'est cette idée que il faut pas qu'on donne trop d'argent, que l'État donne trop d'argent aux pauvres. Alors à l'époque, c'était les Grecs, mais les Grecs qui sont thématisés comme des fainéants, y compris par la chancelière. Puis d'autres fainéants, les migrants qu'on a accueillis en 2015. Et on a toute une série comme ça de changements, de valeurs. C'est une CDU qui n'est plus lisible, une CDU qui fait une politique de gauche, une CDU qui sort du nucléaire, qui sort du nucléaire et du charbon. Or, les centrales charbon sont à l'est. C'est une CDU qui accueille le mariage homo. C'est une CDU qui sort qui fait le programme du SPD. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie beaucoup en France, et je pense que l'Allemagne paye ici plus de 10 ans de grande coalition. C'est-à-dire que l'espace politique, l'offre politique est absolument illisible. Quand vous votez CDU, vous gouvernez avec la gauche. Quand vous votez à gauche, vous gouvernez avec la droite. Et donc du coup, l'AFD est apparue comme une nouvelle offre politique réputée crédible, y compris dans les Länder de l'Ouest et du Sud, parce que elle apportait quelque chose de nouveau, avec en plus des personnes qui étaient réputées diplômées. Et c'est le parti, par exemple, au Bundestag, qui a le plus de docteurs. qui a le plus de diplômés.
Oui, mais en même temps, il est en train de se passer à l'Est quelque chose de très bizarre avec l'AFD, c'est que justement, tout ça c'est vrai, c'est cette partie, disons, d'une droite qui ne se retrouvait plus, qui ne se reconnaissait plus dans la CDU, mais l'AFD qui triomphe à l'Est, c'est une AFD extrémiste, ouvertement xénophobe, raciste, avec des néo-nazis, dont un certain Andreas Kalbrits, qui est l'homme fort du Brandebourg, qui lui est ouvertement un néo-nazi. Et donc, cette AFD-là, c'est quand même pas la même AFD que celle qui est née à Francfort en 2013.
Michel Venacker.
Et elle prend de plus en plus de poids au sein du parti, parce que c'est eux aujourd'hui qui, d'une certaine façon, vont devenir politiquement incontournables.
Michel Venacker, et puis ensuite, je voudrais qu'on revienne sur cette question justement de la coalition et de la possibilité aussi qu'elle tombe, cette fameuse coalition. Le SPD va voter dans quelques semaines pour savoir si on continue justement avec la CDU ou pas. Mais Michel Venacker, vous voulez réagir?
Oui, il faut retracer très très rapidement l'historique effectivement de l'AFD. Il est né effectivement à l'Ouest comme un parti anti-euro, effectivement, d'où son nom Alternative für Deutschland, parce que justement Angela Merkel avait dit qu'il n'y avait pas d'alternative à l'aide accordée à la Grèce. Et donc un certain nombre d'économistes allemands ont décidé que si, c'était l'intérêt de l'Allemagne finalement de sortir de l'euro. Et au début la thématique c'était ça. Et c'était des gens qui effectivement du point de vue économique, comme vous dites, étaient plutôt du côté libéral. Ces gens-là ont été marginalisés dans leur propre parti et ont été renversés. Parce qu'après, il y a eu effectivement cette vague migratoire très importante à partir de 2015. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont vu le créneau, si j'ose dire, et ils se sont précipités sur cette thématique pour trouver un nouveau bouc émissaire. Donc cette fois-ci, c'était les étrangers. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la bride a été lâchée pour un certain nombre de personnes qui ont cru pouvoir s'exprimer librement et d'une façon de plus en plus provocatrice. D'ailleurs, ça peut marcher, la provoque, hein, la preuve, on l'a bien vu. Plus c'est gros, parfois plus on parle de vous dans les médias. Ça a été aussi une tactique qui s'appelle du framing, hein, comment est-ce qu'on se met tout le temps au centre des médias. Donc ils ont beaucoup fait ça. Donc l'AFD effectivement a beaucoup changé depuis sa création en 2013. Maintenant je voudrais juste rappeler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'AFD effectivement fait en chiffre absolu l'essentiel de ses voix à l'Ouest, mais en pourcentage fait deux fois plus à l'Est qu'à l'Ouest. Et un autre chiffre qui est... C'est-à-dire que, et au niveau national, l'AFD est à 12%. Je voudrais juste rappeler qu'en France, le Rassemblement National est à deux fois plus, juste aussi pour redonner peut-être la mesure des choses. D'autre part, donc à 12% au niveau national. Voilà. Donc c'est, pour l'instant, c'est ça.
La question du SPD, je rappelle qu'à l'issue des européennes, sa présidente, Andrea Nahles, a quitté son poste, que là, dans quelques semaines, donc il y a une campagne présidentielle pour prendre la tête du SPD qui commence, qui a déjà commencé. Dans quelques semaines, on va voter pour savoir si oui ou non on continue à s'allier dans cette coalition gouvernementale. Alors, le secrétaire général du SPD a dit très très clairement que pour l'instant, il n'était pas question de remettre tout cela en jeu. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se discute aujourd'hui dans le SPD? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que le SPD mette fin à cette coalition? Qui veut y aller? Allez, Nicolas Hubert, on commence? On y va.
C'est possible, et ils avaient eu du mal à se mettre dans la coalition en 2017, parce que, alors, il faut aussi rappeler aux auditeurs français qu'on est dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire avec un mode de scrutin extrêmement complexe, à la proportionnelle, dans une complexité hors norme. Passons là-dessus. Mais du coup, pour gouverner, on n'élit pas un président, on n'élit pas Merkel. On élit un parti qui est obligé, dans tous les cas, de faire une coalition. Et ces coalitions se retrouvent à tous les échelons, au niveau des Länder et au niveau des villes. Et donc, on est constamment en train de devoir faire des coalitions. D'ailleurs, il y a un terme très allemand qui est un parti koalitionsfähig, capable de faire une coalition. C'est un adjectif. Et l'AFD, pour l'instant, n'est pas encore dans ce label-là, mais Die Linke non plus. Sauf au niveau local. Et c'est pour l'instant aussi ce qui coince des alliances de gauche. Parce que depuis 2005, on aurait pu avoir une majorité de gauche si Die Linke, SPD et Verts s'étaient mis ensemble. Donc pour l'instant, on est un peu coincé et c'est effectivement, les cartes sont un peu rebattues avec l'AFD qui vient prendre 12% au niveau national, 23% dans certains Länder, 28% dans d'autres. Et ils sont au niveau local, partout au-dessus de 10%.
Est-ce que vous les voyez faire une coalition déjà au niveau régional, Nicolas Hubert, l'AFD? Je vous passe la parole juste après.
Pour l'instant, pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a ce qu'on appelle en France le cordon sanitaire, mais les partis de droite, la CSU, certains membres de la CDU commencent peut-être à se poser cette question.
Michel Venacker.
Non, absolument, ça vient d'être dit. Donc, pour l'instant, personne ne veut faire coalition avec l'AFD. Ça a été dit clairement par tous les autres partis. Et l'AFD, comme parti anti-système, naturellement, pour l'instant, ne veut entrer en coalition avec personne. Mais il y a des turbulences, puisque à l'intérieur du parti, pour reprendre ce qu'on disait sur la radicalisation à l'intérieur du parti, le fameux Der Flügel, hein, l'aile radicale, sous-entendu, donc dirigée par Kalbitz et consorts, et aussi Björn Höcke, donc en Thuringe, sortent renforcés des élections de dimanche dernier. Puisque justement ils ont tenu un discours extrêmement dur et que ça a marché. Et donc il va y avoir des turbulences au sein de l'AFD dans les mois et dans les années qui viennent. Et là la bataille va se jouer justement sur le fait est-ce que l'AFD doit devenir Koalitionsfähig, c'est-à-dire capable d'entrer en coalition avec d'autres, ou alors au contraire ce sera peut-être l'aile plus radicale qui l'emportera. Et on ne sait pas du tout quel est l'avenir de ce parti du coup, parce que les deux ailes peuvent entrer en conflit l'une avec l'autre.
Et est-ce que le SPD peut lâcher la coalition? Vous n'avez pas répondu à cette question.
Alors le SPD n'a aucun intérêt à lâcher la coalition, parce que si les élections fédérales avaient lieu dans les mois qui viennent, ce serait la catastrophe pour le SPD. Cela étant, le SPD voulait déjà, enfin, après 10 ans, effectivement, à s'être fait piquer ses bonnes idées, j'allais dire, par Merkel, qui en a récolté tous les lauriers, qui a d'ailleurs donc ce surnom d'aspirateur à idées. Et donc, le SPD voulait, on s'en souvient, entrer dans l'opposition pour se refaire une santé, pour refaire un programme fondamental qui tienne la route. Ils n'ont pas pu le faire, puisqu'on les a en quelque sorte forcés à retourner au gouvernement en 2017. Donc, ça secoue vraiment dans le parti.
Il y en a, mais c'est aussi ce que pense la majorité des membres du SPD, parce que alors eux qui vont décider.
Oui, exactement.
En réalité.
Le vote du nouveau duo probablement, puisqu'il y a beaucoup de duos qui se présentent, un seul qui se présente en candidat tout seul, si j'ose dire. Il y a 17 candidats en tout. Donc le vote aura lieu par les militants courant octobre, et sera les nouveaux dirigeants seront élus début décembre. Et là on y verra plus clair justement sur ce qu'ils veulent faire. Mais globalement, évidemment, ça n'est ni l'intérêt du SPD ni de la CDU que des élections fédérales aient lieu actuellement, parce que malheureusement pour eux, ils se prendraient certainement de mauvais scores.
Ouais, 17 parce que 8 duos, 8 binômes qui sont en lice, et puis Olaf Scholz, qui est ministre des Finances, qui lui est candidat seul. Marc Sémo.
Est-ce qu'on n'est pas dans un cas de figure où on peut imaginer que le SPD, finalement, qui était l'autre grand parti allemand de toute l'après-guerre, finalement disparaisse de plus en plus? C'est-à-dire, et qu'aujourd'hui, le deuxième parti, celui qui serait l'alter ego de la CDU, qui gouvernerait avec la CDU parfois en coalition, etc., deviennent les Verts. C'est-à-dire que le SPD est dans une espèce d'irrésistible déclin, totalement pris en sandwich entre les Verts, en partie les libéraux au niveau de certaines couches supérieures, voilà, et que le SPD, devienne un espèce de parti résiduel.
Absolument.
Comme en France, le PC, pour dire.
Michel Vénacheter et ensuite Nicolas Hubert.
Oui, absolument, c'est-à-dire que il y a de fortes chance, enfin, évidemment, je ne suis pas Madame Irma, mais il y a de fortes chances que le prochain gouvernement fédéral soit composé de la CDU et des Verts. Les Verts sont passés devant le SPD très largement au niveau national dans les sondages. Alors il y a aussi toutes sortes de variantes. Les Allemands qualifient les coalitions en fonction de noms de drapeaux qui correspondent, puisque chaque parti a une couleur en Allemagne. Donc ils ont tenté la Jamaïque avec le FDP après 2017. Donc ça ne s'est pas fait pour un certain nombre de raisons. Il y avait trop de dissensions et de points d'incompatibilité entre les Verts et les libéraux. Mais en revanche, on parle beaucoup maintenant, notamment suite aux élections de dimanche dernier, dans l'un des deux Länder, d'une coalition kényane. Donc en réalité, alors là, le SPD serait encore dedans, ce serait avec les Verts, mais il est possible, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer, tout est extrêmement mouvant, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe actuellement, que le prochain gouvernement fédéral soit entre la CDU et les Verts. Tout dépendra également de la personne qui succède à Angela Merkel, parce que Angela Merkel est très compatible avec les Verts. Pour la succession, on ne sait pas encore. Tout dépend de qui reprendra la CDU.
On va en parler tout à l'heure, hein, dans un instant. On va parler de ce dessin. On est en partenariat avec Cartooning for Peace tous les vendredis et on décrit un dessin qui est en lien évidemment avec notre sujet du jour. Mais juste avant, je voudrais votre avis sur la question de la place des Verts de demain, Nicolas Hubé. Jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Parce que c'est vrai que c'est l'autre tendance lourde. Il y a la percée effectivement de l'AFD, mais l'autre tendance lourde, c'est la montée en puissance aussi des Verts. On l'a vu lors des européennes. On a par ailleurs un chef de file des Verts qui s'appelle Robert Habeck, qui est un homme qui visiblement séduit pas mal l'opinion allemande, hein, quand on regarde un peu les sondages. Il a une popularité qui est très très, très correcte, hein. C'est la personnalité politique préférée des Allemands après évidemment Angela Merkel. Jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller cet homme? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Pourquoi pas chancelier? Allons-y, soyons fous. Nicolas Hubert. Alors,
soyons fous pour répondre déjà à la question précédente. Je ne crois pas que les sociodémocrates vont disparaître aussi rapidement parce que précisément du fait du mode de scrutin, on est dans une proportionnelle. Donc pour faire disparaître un parti, faut y aller un peu plus brutalement.
Un peu plus fort.
Alors le parti qui a disparu et dont on ne parle pas, ce sont les libéraux, le FDP, qui est historiquement le parti de toutes les coalitions jusqu'à 1998. Et ça, il a été largement siphonné par l'AFD sur l'aile la plus libérale ou ordo-libérale et par les Verts pour la partie libérale culturellement. Il y a un transfert effectivement de l'électorat SPD vers l'électorat des Verts pour l'électorat de gauche, mais s'il s'allie avec la droite, ça va à nouveau tanguer, ça va donner l'idée que le système gouverne avec le système, puisque là encore, historiquement, les Verts, c'était l'ennemi numéro un de la CDU et des conservateurs.
Ouais, mais sauf qu'ils sont en train de se verdir.
Ah, bien sûr.
CDU, donc,
Et donc, effectivement, les coalitions sont en train de se faire. Elles ont été expérimentées et c'est pour ça que les élections locales sont, ou régionales sont extrêmement importantes. C'est qu'on teste des coalitions. Et justement, dans certains lenders, on a testé des coalitions vert-noir, qui sont les coalitions entre les Verts et la CDU. Et ça marche dans certains.
On va revenir sur cette alliance possible ou non entre la CDU et les Verts. On va évoquer tout ça dans un instant. Place à notre partenariat donc avec Cartooning for Peace. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian, bonjour
c'est
tout le monde.
C'est vous aujourd'hui qui nous présentez ce dessin et vous nous parlez d'un dessin qui représente l'AFD sous les traits d'un oiseau de mauvais augure. Hein.
Oui, c'est un gros corbeau noir qui s'est posé sur la tête d'Angela Merkel. Un oiseau aux yeux brillants, au regard menaçant. Son bec est grand ouvert comme s'il criait « Victoire ». Trois lettres blanches sont dessinées sur sa robe couleur charbon, AFD. Angela Merkel, elle est vêtue d'un t-shirt aux couleurs du drapeau allemand. Impuissante, elle lève les yeux vers cet oiseau qui s'est invité sur sa chevelure blonde. Elle a le regard fatigué, une moue inquiète, mais elle ne le chasse pas. Serait-ce le signe qu'elle a baissé les bras? D'ailleurs, le corbeau ne vient pas de se poser. Il est si bien installé qu'on ne distingue même plus ses pattes et qu'il a eu le temps de recouvrir de fientes la tête de la dirigeante. L'oiseau de mauvais augure a fait son nid depuis qu'il est entré au Bundestag en 2017 et s'est ainsi invité sur l'échiquier politique. Cette caricature, Cry from the East, soit en français le cri venu de l'Est, a été croquée par le dessinateur de presse néerlandais Joep Bertams au lendemain de la percée de l'AFD aux élections régionales en Saxe et en Brandebourg. Le scrutin ne concernait que deux Länder, mais il confirme un peu plus la montée d'un parti d'extrême droite. Le cri de l'Est, ce n'est pas seulement le croassement victorieux du corbeau, c'est aussi le cri de détresse des habitants de l'ex-RDA. 30 ans après la réunification allemande, comme vous l'avez évoqué, il existe encore des écarts de salaire entre l'Ouest et l'Est. Et les Allemands de l'Est se sentent parfois oubliés. Les inégalités régionales créent des frustrations. L'AFD a su petit à petit les instrumentaliser. Désormais, le corbeau populiste a le regard tourné vers l'ouest. À l'image de cet oiseau, l'AFD croasse fort, le parti a mauvaise réputation, mais il n'effraie plus les électeurs. Et c'est peut-être ce qui inquiète Angela Merkel et sa coalition. L'oiseau de mauvais augure est bien là, il tourne autour des partis traditionnels, tel un charognard, comme s'il annonçait la mort de la coalition en place.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois, on va diffuser, publier maintenant sur les réseaux sociaux ce dessin. Réaction peut-être avec nos invités, Michel Venachter, Nicolas Hubé, que vous inspire ce dessin? Nicolas Hubé, vous faites signe de la main, Michel Venachter, ça n'a pas l'air de vous inspirer beaucoup, Nicolas Hubé.
Non, effectivement, je crois que ce qui est important dans ce dessin, c'est le fait que c'est un parti qui a réussi à s'installer à une vitesse express. On l'a rappelé, 2013, il n'existait pas. Il fait son entrée au Parlement en 2017 et il est bien installé. Il est aussi bien installé parce que je crois qu'il faut rajouter quelque chose. Ce que montrent certains travaux, c'est que il travaille au Bundestag. Ils font le job de parlementaire, ils font un travail législatif très critiquable, mais c'est-à-dire qu'il se prépare aussi à rentrer dans des formes de gouvernement. Pour l'instant, politiquement, ils ne revendiquent pas, ils ne veulent pas le faire. Mais lorsque on les interroge sur leurs intentions, ils font un travail tout à fait de parlementaire classique.
Michel Benachter, c'est d'ailleurs peut-être intéressant de se demander pourquoi finalement ce parti existe toujours aujourd'hui. En 2015, vous aviez écrit un article sur lequel, dans lequel vous vous interrogiez et vous disiez peut-être qu'après, au fond, la percée, ça va être l'implosion de ce parti. Il se trouve que 4 ans après, le parti est toujours là, malgré les divisions internes que vous avez évoquées tout à l'heure, malgré un certain nombre de difficultés. Comment se fait-il que ce parti résiste autant?
Mais c'était exactement le tournant que je décrivais tout à l'heure. C'était le moment de l'implosion, c'est-à-dire où le fondateur, Bernd Lucke, était en train de se faire virer.
Il a été écarté et le parti est toujours
de la tête du parti. Ben oui, parce que ceux qui ont pris le pouvoir à sa place ont été ont fait ce qu'il fallait. Je veux dire, ont su toucher une bonne partie de la population. Donc, mais sur d'autres thématiques, puisque l'euro, la crise de l'euro était un peu passée, ça n'était plus forcément ce qui était le plus porteur. C'est pour ça qu'il est là. Et, juste peut-être rappeler que ces mouvements populistes et radicaux et d'extrême droite n'existent pas qu'en Allemagne, ils existent partout ailleurs. Alors évidemment, ça frappe encore plus les esprits, et bien légitimement, étant donné le passé de l'Allemagne, qu'on pensait immuniser plus que d'autres. Bon, il y a eu une normalisation de l'Allemagne. Peut-être quand même, comme je disais, avoir les chiffres en tête, c'est-à-dire 12% en Allemagne, hein, c'est beaucoup trop pour les 90% le reste des Allemands, mais c'est quand même beaucoup moins que dans la plupart des pays européens. Et donc, concernant cette caricature, effectivement, Angela Merkel, vous disiez, a l'air un peu passive par rapport à ça. Il faut savoir que stratégiquement, Angela Merkel a plutôt tendance à ignorer l'AFD, à ne pas rentrer dans leur polémique pour, elle, continuer son chemin. Donc, quelque part, ça peut refléter un peu cela aussi. En revanche, la société civile allemande, elle, est extrêmement active et beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays européens. Les collectifs de citoyens qui font des manifestations qui sont extrêmement suivis. La dernière, c'était 3 semaines avant les élections à Dresde, 30 000 personnes pour une manifestation locale ou régionale. C'est quand même beaucoup. Sous un hashtag qui s'appelle Unteilbar, c'est-à-dire indivisible, et qui veut bien montrer que, alors que le but premier de l'AFD, c'est de diviser la société, on ne se laissera pas diviser.
Et donc, sauf qu'il va falloir quand même, pardon de vous couper, sauf qu'il va falloir quand même être un petit peu actif face à cette montée de l'AFD et faire un certain nombre de choix. La CDU, là, est devant un choix. On parlait de division à propos de l'AFD, mais la CDU, elle aussi, est extrêmement divisée. Ceux qui pensent qu'il faut mettre la barre un peu à droite, les autres qui pensent qu'il faut mettre la barre à gauche, voire carrément, effectivement, faire des alliances avec les Verts. Il va falloir faire un choix, là. Petit état des lieux, justement, de ces divisions à l'intérieur de la CDU. Et qu'est-ce qui vous semble être la meilleure stratégie, si vous étiez aux commandes, pourquoi pas, pour contrer cette montée de l'AFD. Allez, Michel Benachter et ensuite Nicolas Hubert.
Je ne suis pas à leur place et je n'aimerais pas forcément d'ailleurs y être parce que c'est très complexe. Une fois de plus, tout dépendra de la personne qui succédera à Angela Merkel. Le choix est effectivement entre une droitisation de la CDU qui s'est beaucoup rapprochée du centre sous Angela Merkel, ce qui explique le manque de lisibilité de la CDU depuis quelques années. Donc si c'est par exemple Friedrich Merz qui revient, qui était son concurrent lors des dernières élections au poste de secrétaire général de la CDU, concurrent d'Annegret Kramp-Karrenbauer, mais enfin qui est la dauphine d'Angela Merkel. Donc si c'est Friedrich Merz qui revient, il y aura une droitisation. Cela étant, on a vu ces derniers mois que ceux dans la CDU et la CSU, sa variante bavaroise, qui choisissaient une radicalisation, ça ne leur réussissait pas. Quand on regarde le résultat de la CSU en Bavière, ils se sont pris une déculottée alors qu'ils avaient beaucoup droitisé leur discours.
Nicolas Hubert, vous êtes d'accord? Si on regarde ce qui s'est passé au niveau local, c'est plutôt la barre à gauche qu'il faudra mettre pour la CDU?
Pour la CDU, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais ce qui est sans doute...
Est-ce que c'est ce qui se prépare?
Ce qui se discute, c'est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas que les partis soient plus lisibles et qu'on redevienne à la droite un parti conservateur et à gauche un parti de gauche. Mais pour revenir aussi sur ce qui a été dit, le problème pour l'instant de l'AFD, et lorsque j'avais participé à l'observation des élections en 2017, ce qu'on constatait, c'est qu'effectivement, aucun des partis, mais aucun des journaux non plus, c'est-à-dire l'ensemble de l'espace public et l'espace politique, ne voulait rentrer en débat. Ce qui laissait un boulevard à l'AFD pour critiquer le système, parce qu'effectivement, le système faisait système d'une certaine manière. C'est-à-dire que ni Merkel ne va rentrer dans le débat, mais aucun des partis ne va rentrer dans le débat, et ils étaient complètement tétanisés. Les journalistes eux-mêmes étaient complètement tétanisés. Pour vous prendre un exemple, et ça va peut-être vous surprendre, le Spiegel, qui est quand même ce grand magazine allemand, en 2017, avait réfléchi à faire ce qui se fait partout ailleurs dans les élections, c'est-à-dire une cellule de fact-checking pour aller vérifier ce que disent les différents candidats. Et très rapidement, ils ont renoncé à cette idée, simplement parce qu'ils se disaient, si on fait du fact-checking, on va donc tout le temps vérifier ce que dit l'AFD, et donc on va donner plus de visibilité à l'AFD, donc on va faire le jeu de l'AFD. Mais au final, on laissait un boulevard à l'AFD quand ils étaient invités sur les plateaux pour raconter n'importe quoi. Et donc on est dans l'ensemble de l'espace politique et journalistique, un peu dans cet entre-deux, faut-il jouer la confrontation avec l'AFD ? Mais à quel prix et avec quel risque ? Et pour l'instant, ils ne savent pas trop.
C'est exactement le même débat en France par rapport au Front National. Et on a vu à quels ont été les résultats de la politique. On n'en parle pas, on fait comme s'il n'existe pas, on les ostracise, on n'invite pas Marine Le Pen.
Mais d'accord, il y a la communication politique et puis il y a les actes. Il y a aussi les signaux qui sont envoyés depuis quelque temps par la CDU. Et je parlais tout à l'heure de verdissement de la CDU. Il est très clair. Sur l'écotaxe, par exemple, Angela Merkel a changé d'avis. Elle envisage effectivement, pourquoi pas, d'instaurer une écotaxe. Il y a là un projet d'instauration de la question de la protection de l'environnement dans la Constitution fédérale. Il y a une loi, un paquet de lois sur l'environnement qui doit sortir là. On voit bien qu'il y a cet effort-là et donc cette tendance de la CDU aujourd'hui à se rapprocher des Verts, Michel Wenachter.
C'est parce que pour l'instant, c'est...
C'est Angela Merkel qui décide.
Merkel, voilà. Maintenant, je répète, tout est ouvert quant à la suite. Donc, et on ne sait pas du tout encore qui lui succédera, puisque...
Pourtant, c'était très clair il y a quelques mois. AKK faisait visiblement consensus. Ça a l'air d'être beaucoup moins clair.
Entre-temps, ça n'est plus le cas. Donc là, les cartes sont rebattues et on ne sait pas du tout... pour l'instant, elle est plutôt en mauvaise posture. Il y a quelques mois, elle semblait bien partie. Et là, maintenant, elle s'est décrédibilisée sur un certain nombre de sujets. Elle a été maladroite sur un certain nombre de sujets. Donc, on ne sait pas du tout. Dans 6 mois, elle peut avoir rattrapé le terrain, mais... On ne peut pas le dire.
Pourquoi on se met à douter du côté de la CDU de Annegret Kramp-Karrenbauer?
Ben justement parce qu'elle a fait un certain nombre de bourdes sur la migration, en tenant des propos un peu douteux. Et donc, est-ce qu'elle est capable de dépasser ce statut de seconde de Merkel pour devenir quelqu'un de crédible? Et il faut aussi ajouter que toute la stratégie de Merkel depuis un certain nombre d'années, c'est de se débarrasser de ses plus dangereux rivaux. La dernière étant désormais président de la Commission européenne. Juste avant les élections de 2017, de se débarrasser de Steinmeier, son concurrent social-démocrate, en le faisant élire président de la République.
On ne peut pas imaginer que Angela Merkel demande un nouveau mandat.
Elle a dit que non, mais...
Déjà, on dit que celui-là, ce cinquième, elle mandate trop. Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer qu'Angela Merkel demande un sixième?
Non.
C'est difficile à imaginer, rien n'est exclu finalement par les temps qui courent, si j'ose dire, mais ça paraît très très peu probable, vraiment. Oui. Maintenant, s'il n'y a vraiment personne pour lui succéder, déjà en 2017, elle y est allée parce que de facto, il n'y avait personne qui pouvait gagner à sa place pour son camp politique. Elle ne voulait plus y aller, bon, elle y est allée tout de même. Voilà. Maintenant, juste pour Kramp-Karrenbauer, elle vient de se décrédibiliser sur un point important, et il y a une attente de crédibilité des hommes et des femmes politiques, c'est qu'elle avait dit que elle s'occupait de la CDU, du renouvellement de la CDU, du programme de la CDU, et que naturellement, elle ne voulait pas rentrer au gouvernement, qu'il n'en était pas question. Et elle vient d'accepter le poste de ministre de la Défense, qui est quand même un poste extrêmement lourd. Voilà. Suite au départ d'Ursula von der Leyen à la tête donc de la Commission. Donc ça va, je pense,
une faute politique qui pourrait lui coûter cher. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Michel Wenachter. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy-Pontoise, à Sciences Po également. Merci beaucoup, Nicolas Hubet, professeur à l'université de Lorraine et membre du CIRA, le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Allemagne. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Marc Semo, notre partenaire du Monde. Rendez-vous la semaine prochaine, dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et la Grande Table. Ich hab dies jetzt gemacht und bin überrascht gewesen. Dies, was die wirklich wollen, wo ich kein echter Bayer haben. Drum fass ich dies mal kurz in einem kleinen Liedl zusammen.
Kornvoll will die AfD die Gleichberechtigung. Quoten lehnt sie ab, vielleicht halten's Frauen für dumm. Kinder, die behindert sind, mit Handicap geboren, die haben bei gesunden Kindern in der Schule nix verloren. Außerdem die Frage, woher kriegen die Deutschen Strom? Die Lösung von der AfD heißt Kohle und Atom. CO2 und Klimaschutz ist denen einfach wurscht. AfD im Landtag, da vergeht mir echt der Durst. Laut AfD-Parteiprogramm darf's keine Kirchen geben. Und wer schwul ist oder lesbisch, ist auch nicht mehr gern gesehen. Frauen, die abgetrieben haben, die stehen sie an den Pranger. Und dem Mann sollen sie gefügig sein, dies ist doch recht der Hammer. Strafmündig ab 12 und am besten war's so. Wenn jeder Depp laut AfD a Waffenkaffer kommt, kein öffentlicher Rundfunk mehr, alles wird privat. Kultur nicht mehr gefördert, du, dies wird bei Sauberfahrt. Am 14. Oktober, da ist der Tag der Wahl. Und wenn man dann zum Wählen geht, da ist es fast egal. Hauptsache Partei, die das Land nicht spalten will. Politiker mit Herz, mit Verstand und bissl Gefühl. Wer aber bei der AfD mal schnell sein Kreuzl macht, der hat warum auch immer bissl wenig nachgedacht. Der soll sie aber bitte ganz genau mal überlegen. Ruhe in einem Bayern wirst die AfD mag leben. Ja, ruhe in einem Bayern wirst die AfD mag leben. Mir nicht!